Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir démarre avec vous, Julien Célier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti pour 2 heures d'info tous ensemble avec à la une le feuilleton Les aventures de Novak Djokovic en Australie. Suite, le numéro 1 mondial pourrait bien retourner dans les prochaines heures en centre de rétention. Audience décisive ce week-end avec cette question en creux. Jouera-t-il lundi l'Open d'Australie ou bien sera-t-il expulsé par avion? Les titres de l'actualité dans votre journal imminent. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Sera-t-il celui qui va convaincre les non-vaccinés? Un cinquième vaccin, le Novavax à la technologie plus classique, vient d'être approuvé en France. Dans ce journal aussi, les confidences sur RTL de Brigitte Macron sur le poids de ses 4 années à l'Élysée. Elle ne donnera pas d'ailleurs son avis à Emmanuel Macron sur une éventuelle candidature. Et puis, la mort de Jean-Jacques Benex, le réalisateur de 37.2 le matin. Il avait 75 ans. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 14, le 11, le 8, le 9 et le 16.
Dans un quart d'heure, notre invité de 18h15 sera Juan Pablo Escobar. Il a enquêté sur les crimes de son propre père, Pablo Escobar, le plus important trafiquant de drogue de l'histoire. Et vous l'entendrez, le narcos a même songé à séquestrer Michael Jackson. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de la gauche en miettes avant la primaire citoyenne qui rebat encore les cartes. 18h40, on va refaire nos régions. 20 minutes réjouissantes près de chez vous. Le menu cette semaine, des retraités héros de la vaccination dans les Alpes, des panneaux qui piègent les automobilistes à Strasbourg et puis un délice lorrain du côté de Metz. 19h15, comme chaque vendredi, là aussi, ils refont la France. Amandine Bégaud et ses copains, ses camarades de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir.
On va parler
tous.
De quoi?
Alors on va parler bien sûr de crise sanitaire, de politique, et puis on viendra sur ce classement du New York Times, les 52 destinations à voir en 2022. Ah. Il y a une région française.
Forcément la Bretagne.
Ben bon. Oui, pas très loin on va dire. Allez.
Très bien, des points météo tout au long de l'émission avec vous Valérie Quintin. Bonsoir.
Bonsoir.
La tendance en un mot?
Eh ben, c'est facile pour ce week-end, un froid de canard mais du beau temps la plupart du temps.
On détaille ça dans quelques instants.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
Et donc le feuilleton Djokovic en Australie, 10 jours que ça dure, ce n'est pas fini. Hein.
Et comme l'a dit l'ancien numéro 1 Andy Murray tout à l'heure à Sydney, ce serait bien pour tout le monde que tout soit résolu.
Alors
ce n'est pas encore le cas et pourtant on n'est plus qu'à 3 jours du début de l'Open d'Australie. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir.
Tout à l'heure à 22h, heure française, Novak Djokovic va de nouveau être entendu par les services de l'immigration avec la menace d'un retour en rétention après la nouvelle annulation de son visa.
Oui, c'est même plus qu'une menace. Les autorités ont bien l'intention d'ordonner le retour de Novak Djokovic en rétention. Il sera alors 8h samedi matin à Melbourne. Elle souhaite que le Serbe ne puisse plus sortir sauf pour assister dans les bureaux de ses avocats et sous surveillance d'agents de police aux audiences en ligne. Les délibérations pourraient se poursuivre tout le week-end, rendant de moins en moins envisageable la participation du numéro 1 mondial au premier grand chelem de la saison. En toile de fond, les deux camps discutent depuis 48 heures des différents scénarios possibles. Les incohérences, les fautes, la falsification probable des QR codes de ces tests sont des éléments à charge lourde. S'il accepte de quitter le pays sans de nouveau s'opposer à la procédure, le Serbe pourrait ne pas être privé de visa pendant 3 ans, comme le prévoit la loi australienne. Dans le cas contraire, il ne remettrait pas les pieds à Melbourne avant ses 37 ans. L'histoire australe de Novak Djokovic s'écrit donc ce soir plus proche de l'aéroport que du rectangle bleu de la Rod Laver Arena, théâtre de 9 de ses 20 titres majeurs.
Et on suivra ça tout au long du week-end, évidemment. Merci
incroyable.
Jean-Michel Rascol.
Après Pfizer, Moderna, Janssen et AstraZeneca, voici le petit nouveau, Novavax, cinquième vaccin anti-Covid autorisé en France depuis aujourd'hui, et il suscite de l'espoir.
Pour convaincre certains des plus de 4 900 000 non-vaccinés de recevoir une injection, et voici pourquoi Robert Sebag est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
On a eu 2 vaccins ARN messager, hein, le Pfizer, le Moderna, et on a eu 2 vaccins à vecteurs viraux, hein, complètement différents. Et là, effectivement, la Novavax. C'est une technique complètement différente. Hein. Ce sont des protéines recombinantes. Hein. C'est le même principe que le vaccin qu'on utilise pour l'hépatite B, pour les méningites à méningocoque, pour la coqueluche. Et donc, c'est relativement classique, si vous voulez. Ça peut convaincre des personnes qui étaient des personnes réticentes, je ne sais pas comment il faut les appeler, anti-vax ou pas, des personnes qui disent, moi, cette technologie nouvelle de l'ARN messager, on ne sait pas trop, est-ce que ça va modifier le génome, tout ça est faux. Mais bon, peu importe, il y a un doute lié à la nouveauté, on n'a pas l'habitude, c'est une première fois. Ça peut les rassurer parce que c'est un vaccin, entre guillemets, relativement traditionnel. Ça va en convaincre quelques-uns.
L'infectiologue Robert Sebag, joint pour RTL par Agathe Landais.
Tiens, pour les vacciner, petit rappel, à partir de demain, pour garder son pass sanitaire, il faut la troisième dose. 600 000 personnes ayant reçu la deuxième dose il y a maintenant plus de 7 mois vont perdre leur passe demain, sauf s'ils ont eu évidemment le Covid entre-temps.
Alors ce soir sur RTL, on cite aussi intéressé aux chiffres de contamination qui avec Omicron ne cessent d'atteindre des sommets, sauf que certains indicateurs commencent à frémir.
Alors vous les suivez de près, Odile Pouget, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste santé de RTL. On a deux régions en particulier qui montrent des signes de... On peut dire décélération ?
Oui, alors d'abord, il y a des petits signes vraiment encourageants. C'est vrai que ces deux régions, Île-de-France, Corse, il y a un léger ralentissement de ces contaminations. L'Île-de-France qui était quand même particulièrement touchée.
Ça continue d'augmenter, mais ça augmente moins vite.
L'augmentation est moins rapide, et cela depuis deux jours. Et puis, il y a le taux d'incidence chez les 20-40 ans. Dans cette tranche d'âge, le nombre de nouvelles contaminations amorce une très légère baisse. 4100 cas positifs pour 100 000 habitants contre 4350 il y a deux jours.
Ça fait encore un habitant sur
25. Oui, cette tendance reste évidemment très fragile. Donc parce que d'abord, une seule classe d'âge est concernée. Toutes les autres connaissent des niveaux très élevés de contamination. Et puis, averti Santé publique France, toutes ces données peuvent être légèrement faussées par tous les changements intervenus en matière de dépistage.
Bon, augmentation ralentie donc, Odile. Mais au global, les chiffres crèvent toujours le plafond.
Oui, toujours plus de 300 000 cas chaque jour. Actuellement, une personne sur cinq qui se fait tester est positive. Les entrées à l'hôpital et dans les services de réanimation sont toujours en augmentation. On le rappelle, 24 000 patients aujourd'hui hospitalisés, dont un peu moins de 4 000 en soins critiques.
Je vous propose que vous continuiez donc de suivre ces chiffres, Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Au Royaume-Uni, les nouvelles excuses de Boris Johnson, cette fois présenté à la reine après les révélations sur cette nouvelle fête à Downing Street la veille des funérailles du prince Philippe et à une époque où les Britanniques ne pouvaient se retrouver qu'à 6 maximum en extérieur.
C'était l'événement, elle était l'invitée de RTL ce matin à 100 jours de la fin du quinquennat de son époux. Brigitte Macron s'est confiée sans tabou sur ses 4 années passées à l'Élysée.
Avec un récit en creux de la violence de la vie publique que subit aussi la première dame.
Oui, j'ai un regret. J'ai un regret, c'est de ne pas consacrer assez de temps à mes amis, à mes proches, et de dire aussi à mes amis, ne dites pas que vous êtes amis avec moi, ne dites pas, parce que j'ai le sentiment de nuire aux gens que j'aime. Parce qu'ils sont proches de nous, on peut leur faire du mal. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ça, je l'ai compris. C'est-à-dire, jamais je ferai une sortie d'école. Je suis toujours allée chercher mes petits-enfants à l'école, mais là, c'est impossible. C'est de m'excuser auprès de mes proches de ce que je ne leur donne pas.
La vie compliquée de Brigitte Macron, la première dame, qui par ailleurs assure avoir demandé à Emmanuel Macron de ne pas lui demander son avis sur sa candidature. Cet entretien est à retrouver sur RTL.fr.
Petite pause et dans un instant sur RTL. 1. L'épargne qui rapporte plus et 2. Une électricité un peu moins chère que prévu. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines et c'est vrai qu'ils ont grandement pesé sur l'inflation l'an dernier. Mais les prix de l'électricité n'augmenteront pas de plus de 4% cette année.
Oui, promesse du gouvernement pour les particuliers, mais cela concernera aussi les entreprises. Ouais. Et face à l'augmentation des tarifs, certaines avaient prévu de s'arrêter temporairement, comme l'usine de zinc d'Oby dans le Nord. Vous vous êtes rendu sur place pour RTL, Franck Hanson. Pour l'heure, ces annonces ne changent rien. Il y aura bien une mise à l'arrêt, mais elles suscitent tout de même de l'espoir.
Oui, l'usine avec ses immenses cuves continue de tourner sans relâche. Dans ce site qui consomme autant d'électricité qu'une ville comme Lyon, ces annonces restent un premier pas pour Nasser Sadki, le délégué CGT.
C'est un premier soulagement. On pensait obtenir beaucoup mieux. Oui, il y a eu une annonce d'augmentation du volume attribué aux industriels, ce qui nous permettrait d'avoir un tarif assez modéré et de pouvoir normalement continuer à produire, même si ça reste encore très 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 limite. Dans 15 jours, on n'a pas haute visibilité.
Face à la flambée de ces charges, le four devrait normalement s'arrêter. Mais Xavier Constant, directeur de Nearstar Hobby, salue un certain effort.
On sait qu'on va tourner jusqu'au 23, donc oui, on a limité la casse. L'incertitude demeure. Ça va dans le bon sens et on mesure les efforts que cela demande à la fois au gouvernement et à EDF. Si vous payez sur votre premier poste de dépense 4 fois plus cher que vos concurrents, vous ne pouvez pas tenir.
À l'extérieur de l'usine, certains salariés inquiets face à un éventuel arrêt ont un peu repris espoir.
Un reportage de Franck Hanson à Oby dans le Nord. Et puis l'augmentation du taux du livret A, une première depuis août 2011, de 0,5. Sa rémunération va passer à 1% au 1er février.
On l'a appris cet après-midi, le réalisateur Jean-Jacques Benex nous a quittés à l'âge de 75 ans.
Et qui dit Benex dit forcément Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle dans 37 de le matin.
Mais putain, on tombe toujours sur des salauds, il faut pas discuter avec eux, il faut les descendre, c'est tout.
Mais ça changerait quoi, hein?
Mais t'as pas de fierté?
Oh si, mon chaton, si. Et si je dois repeindre toutes les baraques de la ville pour qu'on reste ensemble, je les repeindrai, même en rose, crois-moi.
Mais ouvre les yeux, non mais t'es fêlé, non mais t'as vu dans quel trou on vit avec ce connard qui veut seulement qu'on lui cire les pompes? Mais sans où tes merveilles pour laquelle tu t'es laissé enculer? Mais montre-moi un peu!
Doucement, hein? On en est tous au même point, Betty.
Mais comment tu veux que je sais, moi, si je peux pas t'admirer? Ça rime à quoi?
Bonsoir Stéphane Woodstock.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors de Jean-Jacques Benex, on connaît notamment 37.2 le matin, un réalisateur qui a voulu bousculer les codes du cinéma français.
Ouais, avec Luc Besson, Jean-Paul Gaultier, Mondino et quelques autres, Benex a changé l'esthétique de nos années 80. Pour lui, cette ambition passait par une révolution visuelle et narrative du cinéma. Et de fait, Diva, La Lune dans le Caniveau ou 37.2 bien sûr, ont changé la donne. Benex l'a payé de la haine farouche de la presse intello qui ne lui a jamais pardonné ses audaces et ses succès populaires. La mort d'Yves Montand en 92, peu après le tournage de IP5, a été le coup de grâce, quand on l'a stupidement accusé d'avoir précipité le décès de l'acteur en tournant des scènes où il se baignait dans un lac gelé. Retiré des plateaux depuis 20 ans, Jean-Jacques Benex laisse la trace d'un météore flamboyant qui, oui, aura marqué son époque.
Jean-Jacques Benex qui avait donc 75 ans. Merci Stéphane Woodstock.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Trois courses, deux succès, nouvelle victoire de l'équipe de France féminine de biathlon. C'était tout à l'heure à Ruhpolding en Allemagne et en relais.
C'est noté, merci beaucoup Marion. À tout à l'heure, le temps pour demain. Valérie, dites-nous tout.
On se débarrasse des brouillards givrants le matin.
Avec plaisir.
Ils sont très répandus, notamment sur la moitié nord, près de la Garonne et près de la Saône. Ensuite, place au soleil partout, excepté sur une toute petite portion nord-ouest entre le Cotentin, le Finistère et la Loire-Atlantique, mais sans dégradation. Côté température, un bon moins 7 à Mont-de-Marsan au réveil. 0 dans Paris dans l'après-midi, 3 à Dijon, 5 à Besançon, 6 à Rennes et Paris, 10 à Montpellier, 11 à Bordeaux, 14 pour Toulon.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, la brigade RTL s'interroge. Est-ce que la guerre a commencé entre l'Ukraine et la Russie? Alors on ne parle pas des mouvements de troupes à la frontière, non, on parle d'une cyberattaque géante. Et on va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Une attaque massive qui a pris deux formes. Un, plusieurs sites du gouvernement ont été saturés. En fait, les hackers prennent le contrôle de centaines de milliers d'ordinateurs sur la planète via un virus et demandent à tous ces ordinateurs de se connecter au site en même temps. C'est comme si on saturait le standard des auditeurs ont la parole.
Okay.
Deux, il y a eu un défaçage page d'accueil de site modifié avec des messages provocateurs sur celle du ministère des Affaires étrangères. Il y avait « Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire. Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le web. » On avait vu ça en France avec des appels au djihad.
C'est la Russie qui est derrière cette cyberattaque,
hein? Alors, impossible de vous le dire, mais c'est le même mode opératoire qu'une attaque de la Russie contre l'Estonie en 2007. Donc ça correspond au mode opératoire russe. L'Ukraine a par ailleurs plusieurs fois été la cible de cyberattaques ces dernières années contre son réseau d'électricité. En 2015, par exemple, Kiev accuse Moscou, la Russie dément. Et puis il y a le contexte, Julien, c'est 100 000 soldats russes postés à la frontière avec l'Ukraine.
Si ce sont bien les Russes, quel est leur intérêt?
L'intérêt de la déstabilisation du pays, de l'opinion publique. À la vue de tout le monde, une telle attaque, m'a confié un expert, vise à diffuser un sentiment de peur, de terreur, du moins de fragilisation, fragiliser la confiance des Ukrainiens dans leurs institutions, puisque c'est bien le site de leur gouvernement qui a été attaqué.
Les explications de la brigade RTL signée Julien Fautra et l'Union Européenne condamnent évidemment cette cyberattaque et assurent qu'elle mobilise tous ses moyens pour aider les Ukrainiens. Petite pause et ensuite sur RTL, le fils de Pablo Escobar sera notre invité. Son livre « Ce que mon père ne m'a jamais dit » sort chez Hugo Poche et vous allez l'entendre. Son papa, le narcotrafiquant, a même songé à kidnapper Michael Jackson. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Ce soir, un témoignage exceptionnel dans RTL Soir. Notre invité, Juan Pablo Escobar. Bonsoir.
Buenas tardes.
Vous êtes le fils de Pablo Escobar, le plus important narcotrafiquant de l'histoire, mort en 1993 en Colombie. À l'époque, d'ailleurs, cette mort faisait la une sur RTL. Écoutez Archive.
Et tout de suite, cette dernière minute, on l'a appris il y a quelques instants, Pablo Escobar aurait été tué par les militaires à Medellín, en Colombie. Escobar était l'un des barons du trafic de drogue en Colombie. Quelques heures avant sa disparition, le président du Salvador, en visite en Colombie, avait proposé officiellement que la famille, les proches de Pablo Escobar, trouvent refuge s'ils le désiraient au Salvador. Ils avaient été refoulés d'Allemagne il y a quelques heures. Pablo Escobar serait donc mort ce soir. C'est une information à prendre encore au conditionnel. On n'a pas plus de précision.
Voilà, ça c'était sur RTL en 1993. Juan Pablo Escobar, votre dernier livre, Ce que mon père ne m'a jamais dit, sort en librairie en poche. Vous vous êtes construit en opposition, vous êtes devenu un farouche militant anti-drogue. Et d'ailleurs, je crois que vous enragez parce que la vie de votre père a inspiré récemment une série télé à succès sur Netflix. Et vous écrivez, mon père ne doit pas devenir un super-héros de l'histoire récente.
C'est évident que cela a été un fruit des médias qui ont construit autour du nom de mon père une espèce d'image de super-héros. Et aujourd'hui, on parle davantage de mon père comme s'il était encore vivant. Il faudrait apprendre de ces histoires et ne pas en parler comme s'il était un super-héros, mais comme un criminel.
Pour que les auditeurs se rendent bien compte, votre papa était à la tête d'un cartel, le cartel de Medellín, ultra puissant, 20 milliards de dollars de bénéfices par an, 80% de la drogue en circulation aux États-Unis était exportée par ce cartel. Pourtant, vous dites, mon père était richissime, mais il était malheureux.
Il est évident. Je pense que une des leçons que cette histoire nous a laissées, c'est que mon père a bien cumulé une fortune énorme, mais cela n'a pas garanti son bonheur. Tout le contraire. Il y a eu des anecdotes où on a dû s'enfermer avec des millions de dollars, mais on avait subi de la faim parce qu'on ne pouvait pas sortir.
Racontez-nous votre petite enfance. Vous vivez dans l'opulence, il y a un zoo avec des hippopotames dans votre jardin, il y a des gardes du corps armés. Est-ce que le tout petit garçon que vous étiez à ce moment-là se rendait compte de quelque chose ?
Il est évident que lorsque vous avez 7 ans, vous apercevez de quelque chose qui ne sont pas complètement normales. Mon père a parlé avec moi. Il m'a avoué qu'il était un truand. J'ai commencé à voir que mon père, qui n'avait pas de scrupules de reconnaître face à moi que le fait qu'il se consacrait à des activités criminelles. Ceci nous a permis de tisser une relation très transparente.
Ce livre, c'est aussi une enquête sur les crimes de votre père. Sa guerre contre les autorités et ses rivaux a fait 3000 morts. Et vous avez à la fois rencontrer ses ennemis, mais aussi ses victimes. Votre père, par exemple, avait voulu faire assassiner un candidat à la présidentielle. Il avait fait exploser un Boeing. 107 passagers étaient décédés. Vous avez décidé d'écrire à leurs 107 familles pour leur demander pardon. C'est une démarche incroyablement courageuse.
Il est clair que ce livre a été un processus de réconciliation. Jusqu'à maintenant, j'ai pu avoir au moins 150 discussions, conversations avec des victimes, des familles. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu un taux de succès de réconciliation avec ces familles d'un 100%.
À quel moment vous avez décidé d'entrer dans ce processus ? Parce que vous l'écrivez dans le livre. Tout d'abord, à 16 ans, quand votre papa meurt, vous dites « je vais le venger, moi seul, je vais les tuer ».
Oui, c'est cela. Même publiquement, j'avais proféré des menaces publiques contre le pays. Je traversais des moments très difficiles. J'avais beaucoup de douleurs. J'ai appris son décès 10 minutes juste après d'avoir accroché au téléphone avec lui. Donc j'ai eu une réaction très violente. C'est une réaction dont on parle encore. Et au bout de quelques minutes, en fait, je me suis aperçue très vite que ce n'était pas le bon chemin. J'ai pris donc mon téléphone, j'ai parlé aux médias pour leur dire et qu'en fait, cette vengeance n'était plus valable. En revanche, mon engagement de paix était réaffirmé et donc c'est ce que je suis en train de faire depuis le décès de mon père il y a 30 ans.
Est-ce que malgré ces enquêtes que vous avez menées sur les crimes de votre père, pour autant vous gardez toujours le souvenir d'un papa aimant, parce qu'on trouve dans votre livre des photos où vous êtes ensemble, tout sourire, avec le même costume par exemple le jour de votre première communion?
Oui, bien sûr. Je dois vivre avec deux sortes de souvenirs de mon père. D'une part, il s'agit d'un père affectionné, de bons conseils, qui me prenait dans ses bras et qui me guidait tout au long de la vie et qui me guidait sur le bon chemin. Et comment, en même temps, ce même père, en dehors de la maison, ne nous donnait pas un bon exemple, car il envoyait, il commandait des assassinats, il plantait des bombes. Et donc, je dois vivre avec les bons souvenirs ainsi qu'avec les mauvais souvenirs.
Il y a peut-être une anecdote qui résume les deux côté de votre papa dans ce livre. C'est le moment où vous êtes petit, vous adorez tous les deux Michael Jackson et vous lui dites « Et si on faisait venir Michael Jackson ici à la Hacienda pour jouer sur scène, sur le stade de foot à côté de la maison ?» Et votre père y réfléchit très sérieusement et en même temps il se dit « Peut-être que je pourrais racketter Michael Jackson ».
Oui, bien sûr. C'est vrai. Et c'est une histoire qui n'avait pas été révélée. Nous, vers Noël, à la Hacienda Nápoles, en fait, on invitait des artistes. Et à un moment donné, j'en étais un peu fatiguée des mêmes artistes. Donc, comme j'étais fan de Michael Jackson, je lui ai demandé. Lui, il avait tout de même ses penchants vers la criminalité et il envisageait des opportunités différentes à chaque fois qu'il pouvait faire quelque chose. Donc il savait qu'il pouvait payer pour les services de Michael Jackson. C'est vrai, il envisageait. Après, il s'était dit, mais nous n'allons pas le laisser partir, on va lui demander 60 millions de dollars s'il souhaite sortir. Donc en fait, ce que j'avais envisagé d'avoir un petit concert familial, mon père était déjà en train de réfléchir à comment les kidnapper pour avoir plus d'argent.
Anecdote très, très éclairante. Merci Juan Pablo Escobar d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Votre livre « Ce que mon père ne m'a jamais dit » sort chez Hugo Poche en librairie. Merci d'avoir été notre invité sur RTL.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
Allez, on va marquer une petite pause. Et ensuite, dans RTL Soir, il y aura vos dessous de l'actu, les dessous de la gauche désunie avant une primaire citoyenne qui rebat encore les cartes. Et puis, Sylvester Stallone qui s'invite dans une pièce de théâtre réjouissante dans Laissez-vous tenter dernière. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL.
18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Allez, RTL Soir vous accompagne. On vous rappelle maintenant, comme chaque soir, à cette heure-ci, les grands titres de l'actualité. Marion Calais.
Une action en baisse de plus de 14% en bourse. La difficile fin de semaine d'EDF. Entre obligation par l'État de vendre son électricité à perte pour limiter la hausse des prix. Et mauvaise nouvelle dans son parc nucléaire avec le prolongement de l'arrêt de certains réacteurs. Il sera 22h en France, 8h en Australie. Novak Djokovic face au service de l'immigration. Son visa annulé, il devrait retourner en rétention. Sa participation à l'Open d'Australie qui débute lundi est plus que jamais incertaine. Il a révélé Béatrice Dalle dans 37.2 le matin. Le réalisateur Jean-Jacques Benex est mort. C'était hier, il avait 75 ans.
Merci Marion. Le temps pour demain, Valérie, alors ?
Beau mais froid. Alors sur la moitié sud, le soleil va très rapidement arriver. Pour la moitié nord, ce sera un peu plus laborieux. Les brouillards givrants du matin vont mettre pas mal de temps pour se dissiper. Et on aura même pas mal de nuages entre le Cotentin, le Finistère et la Loire-Atlantique. Température de moins 7 degrés à Brive, à 4 degrés à Nice au réveil. 3 à 16 l'après-midi avec 6 à Paris, à Bourg-en-Bresse et à Angers.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous d'une gauche éparpillée. Six principaux candidats, tous entre 1 et 12%. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
L'unité semble bien impossible. C'est pourtant le vœu de la primaire populaire. On va beaucoup en entendre parler dans les jours qui viennent. C'est quoi exactement la primaire populaire ?
Alors c'est assez étonnant, mais c'est la seule élection où vous pouvez être candidat, même si vous n'avez rien demandé. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ne veulent pas y participer, eh bien leur nom sera quand même proposé au vote. Idem pour Anne Hidalgo, qui voulait une primaire, mais comme ses rivaux n'y vont pas, elle n'en veut plus. En fait, la seule figure de cette élection qui est censée faire sortir et émerger un nom et pour une unité à gauche, c'est Christiane Taubira. Ça en fait la grande favorite. Elle voit là l'occasion de lancer sa candidature, de lui donner une légitimité, du poids pour espérer doubler les concurrents de son camp, du poids parce que les organisateurs de cette primaire revendiquent au moins 120 000 inscrits prêts à voter à la fin du mois. C'est autant que pour la primaire des Républicains. Alors attention, Christiane Taubira est favorite, mais on murmure que certains insoumis se sont peut-être inscrits au vote, histoire que Jean-Luc Mélenchon fasse un bon score, même si officiellement, il se fiche du résultat.
L'objectif de cette primaire citoyenne, donc, c'est d'aboutir à une unité. Mais dans les faits, quand on vous écoute, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse qui est en train de se produire.
Oui, les activistes écologistes qui sont derrière cette primaire le font donc au nom de l'unité. Mais les Verts et les Insoumis leur répondent « Attendez les amis, vous êtes gentils, mais vous allez simplement ajouter une autre candidature à gauche et du désordre au désordre. » D'ailleurs, le désordre continue. Hier, le maire PS de Marseille a dit qu'il soutiendrait le vainqueur de cette primaire, même si ce n'est pas la socialiste Anne Hidalgo. Ça commence à être difficile à suivre tout ça. La gauche et cette présidentielle, c'est un feuilleton qui n'a pas fini de nous surprendre.
Mais heureusement, vous êtes là, William Galibert, pour nous révéler les dessous ce soir d'une gauche en miettes, donc.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Allez, bonne soirée, 18h33 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Laissez-vous tenter dernière maintenant. Allez, on a bien besoin d'un peu de sourire et des bons conseils de la bande de LVT pour occuper nos soirées, nos week-ends. On va aller au théâtre ce soir. Tiens, ça va nous faire du bien avec une pièce remède à la morosité ambiante. Bonsoir Julien Molcou.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Une pièce que vous avez adorée.
Adoré, c'est le mot. La pièce s'appelle Stallone et elle raconte l'histoire de Liz, interprétée par l'incroyable Clotilde Esme. Alors voilà, nous sommes en 82, ouais. Liz a 25 ans et un soir elle va voir Rocky 3.
Très bon
cinéma.
Choix, très bon choix.
Très bon choix. Eh bien le film, tout comme Sylvester Stallone et son personnage de Rocky Balboa, vont bouleverser la jeune femme. Et à partir de ce soir-là, Rocky va devenir une sorte de mentor pour Liz qui décide que sa vie va changer.
Comme Rocky Balboa au début du film, elle se laissait aller. Elle se laissait glisser. Elle allait faire comme lui. Elle allait tout recommencer. Elle avait 25 ans. C'était maintenant ou jamais. Comme Rocky Balboa, elle allait travailler. Travailler. Encore et encore. Elle allait reprendre ses études de médecine. Et cette fois, elle irait jusqu'au bout. Sa décision était prise. Elle deviendrait médecin.
Ah, cette bande-son, ça donne une motivation incroyable. Clotilde S. n'est pas seule sur scène.
Non, elle partage la scène avec Pascal Sangla, à la fois pianiste et acteur, dont les interventions sont à chaque fois drôlissimes. Et c'est d'ailleurs ensemble qu'ils se sont appropriés la nouvelle écrite par Emmanuel Bernheim, parce que Stallone, au départ, c'était une nouvelle, publiée dans le journal Le Monde en 2001. Et ensemble, ils ont donc donné corps et vie à ce personnage de Liz. Et ils ont fait de Stallone un spectacle vraiment réussi. Franchement, croyez-moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point on s'attache à cette fille, on suit son parcours, on est à ses côtés quand elle rencontre l'homme de sa vie, quand elle passe sa thèse, quand elle a son premier enfant, qu'elle ouvre son premier cabinet, et ainsi de suite. C'est virevoltant, c'est bouleversant, c'est drôle, ça sent bon la fin des années 80, les téléphones filaires, les terrasses de café, la vie douce.
Ah là, c'était bien.
Franchement, cette pièce est une merveille, ça s'appelle Stallone, ça se joue au Petit Saint-Martin à Paris dans le 10e tous les soirs à 19h, et j'espère qu'ensuite ça partira en tournée, ça mérite.
Tout cas, vous en parlez bien et ça donne envie donc de filer au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Merci beaucoup pour le conseil, Julia Molcou.
Merci.
Laissez-vous tenter, dernière.
Petite pause et on va continuer RTL Soir avec On refait nos régions. Vous le savez, c'est le rendez-vous tous les vendredis au plus près de chez vous. Alors on programme là dans un instant des retraités franchement héros de la vaccination au fin fond des Alpes. Les panneaux qui envoient sur une autoroute payante à Strasbourg. Certains se font piéger, beaucoup même. Et puis une petite douceur messine aussi pour ceux qui ne mangent pas là. Et à tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.